Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Lex Formativa, le magazine juridique de Forma Radio. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, c'est la certification. Voilà. Faut-il réellement certifier les organismes de formation? Est-ce que finalement, on a besoin de changer avec Datadoc? Est-ce que ça change vraiment les choses? Autant de questions qui sont très importantes. Et donc, on a choisi une professionnelle pour nous parler du sujet. Et donc, nous avons la chance d'avoir Laetitia Clanet qui va nous parler de ceci. Et pour pouvoir lui poser toutes les questions qu'on désire lui poser, on a Manan Ratnan qui va pouvoir poser les questions. Bonsoir Manan.
Bonsoir, merci. Et merci à Laetitia Clanet d'être là avec nous ce soir pour répondre à toutes nos questions. Donc, comme tu viens de le dire, Stéphane, sujet passionnant, la certification, on sait comment c'est important pour les formations, surtout quand on veut accéder au financement, aux fonds nécessaires pour rester au top. Et donc, Laetitia Clanet, si on peut commencer, on a vu plein de changements aujourd'hui, enfin, c'est à partir de 2019 au niveau de la réforme. Nouvelles règles, nouvelles certifications. Est-ce que ça a tellement changé? Est-ce qu'il faut se mettre à jour? Est-ce que tout a changé? Est-ce qu'il y a des restes par rapport au data docking? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer?
Bonjour à tous. Alors, effectivement, la réforme de la formation professionnelle demande donc à partir du 1er janvier 2021 aux organismes de formation qui souhaitent bénéficier des fonds de financement publics ou mutualisés d'être certifiés selon un référentiel national qualité que l'on appelle du coup plus communément maintenant Qualiopi, qui est la marque de certification. Donc, par rapport au Datadoc, la réforme, en fait, enfin, Datadoc permettait de faire un premier pas vers la qualité. C'est-à-dire que on était sur des critères et des indicateurs. Pour Qualiopi, on est toujours sur des critères et des indicateurs. Bon, il y en a un peu plus que pour le Datadoc, mais l'esprit général est le même. On va dire que Datadoc était un premier pas vers la qualité.
D'accord.
Ensuite, la différence en fait entre le Datadoc et Qualiopi, c'est que le Datadoc était du déclaratif et les contrôles des organismes de formation étaient aléatoires et étaient réalisés par les OPCO, enfin
D'accord.
les OPCA qui sont devenus maintenant les OPCO. Là maintenant, on va être sur des audits de certification avec des cycles. Donc une certification aura une validité déjà, alors que le Datadoc n'avait pas de durée de validité. La certification, elle aura une validité de 3 années. Et au cours de ces 3 années, il faudra se soumettre à un audit initial de certification, puis un audit de surveillance. Et si on veut poursuivre pour 3 années de plus, on se soumettra à un audit de renouvellement, puis un audit de surveillance. Et ainsi de suite, en fait, tous les 3 ans. Voilà.
D'accord. Et tous les formateurs, organismes de formation sont soumis à ça, comment ça, ce qui est concerné principalement?
Sont concernés les organismes de formation qui souhaitent bénéficier des fonds de financement publics ou mutualisés. Voilà. Donc les organismes qui ne font des formations que sur des fonds privés n'ont pas besoin de cette certification. Voilà.
Sachant que.
C'est uniquement les organismes qui bénéficient en direct des financements.
D'accord. Sachant que après, comme le Datadoc, ça peut être utilisé comme marque pour de certification aussi pour un peu médiatiser sur la qualité de la formation éventuellement. C'est bien ça?
Est-ce que finalement la qualité peut être un outil de communication auprès des entreprises?
Je suis désolée, il y a eu une petite coupure, hein.
Ah, d'accord.
Donc, effectivement, la qualité peut être une démarche, comme on le connaît sous certains autres schémas, c'est une démarche qui permet de se différencier de la concurrence. Donc, certains organismes vont vouloir peut-être passer par la certification Qualiopi, même s'ils n'ont pas besoin finalement des fonds de financement publics et mutualisés pour se démarquer vis-à-vis de leur concurrence. C'est une possibilité. Après, rien ne l'oblige. Donc, voilà, ça sera une démarche volontaire.
Alors, Qualiopi, par rapport à d'autres processus de certification ou de qualité, quand on prend par exemple la certification AFNOR ou quand on prend l'OPQF, est-ce que c'est similaire? Quelles sont les différences? Donc, alors je reprends ma question parce que peut-être qu'elle n'a pas été bien entendue. Par rapport aux normes AFNOR, quelle est la
Oui.
différence? Et pareillement sur l'OPQF, est-ce que c'est la même
Alors en
chose?
fait, je pense que les normes dont vous parlez, les certifications dont vous parlez, c'était les certifications référencées CNEFOP. Donc, en fait, quand on était sous Datadoc, on avait la possibilité soit de compléter en fait le Datadoc via un dépôt de dossier en ligne, soit de passer par une certification qui était une certification en fait volontaire et qui permettait de se faire référencer Datadoc grâce au certificat qui leur était délivré. Ces normes-là, enfin ces référentiels-là, en fait, il en existait beaucoup, et c'est pour ça que justement la DGEFP, le ministère, a voulu uniformiser les pratiques et faire un seul et même référentiel pour l'ensemble des organismes certificateurs, puisqu'il y avait autant de référentiels que d'organismes certificateurs en fait. Donc ces normes-là peuvent toujours être accessibles de façon volontaire, mais à partir du 1er janvier 2021, de la même façon que le Datadoc, elles ne permettront plus d'obtenir les fonds de financement public ou mutualisés. Il faudra en fait passer par Calliope, qui sera en fait la marque de certification pour les fonds de financement public et mutualisés, et ça permet finalement de parler tous le même langage. Voilà. Donc AFNOR, OPQ, comment il s'appelle,
ISQ,
tous ces organismes-là, on les voit, de toute façon, ils sont sur la liste des organismes autorisés à délivrer Calliope. Ils pourront proposer donc la certification Calliope ou leur ancienne certification CNEFOP, s'ils décident de la maintenir dans leur catalogue, en fait. Mais les certifications CNEFOP seront volontaires. Voilà.
Donc, si on est intéressé pour savoir quels sont les organismes de certificateurs, il y en a combien et où on les trouve?
Alors, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait 21 la dernière fois que j'avais regardé. On les trouve quand on tape tout simplement sur Internet « liste des organismes certificateurs formation », on tombe sur le site de la DGEFP, en fait, du ministère, et le ministère a publié cette liste d'organismes autorisés, en fait, par le COFRAC à délivrer Calliope.
Ils sont tous équivalents ou qu'est-ce qui les différencie?
Qu'est-ce qui va nous différencier? Ça va être l'approche. C'est-à-dire que, enfin, moi je vais parler pour mon cas, je suis un organisme certificateur à taille humaine. Donc je me défends par une approche commerciale un peu plus personnalisée que lorsqu'on fait appel à des plus grosses structures pour qui c'est un peu plus industrialisé. Voilà, on va se démarquer par ce genre d'éléments-là et aussi par certains détails, je n'ai pas trop le terme en tête, mais par exemple pour la qualification des auditeurs. Chaque certificateur a sa propre exigence pour qualifier ses auditeurs. Donc on peut aussi se démarquer par les exigences que l'on peut avoir pour référencer des auditeurs. Certains permettront d'être référencés à l'issue d'une formation, d'autres à l'issue d'une phase de tutorat. Voilà, on va se démarquer par rapport à ça. Et après, par notre disponibilité envers nos prestataires. Parce qu'il est vrai qu'en fait, on est soumis aux exigences COFRAC, on travaille tous sous des normes aussi, puisqu'on doit être accrédité. Donc, on travaille sous la 17065, et finalement, on doit respecter tous les mêmes schémas de certification. Voilà. Les seules possibilités que l'on a finalement de se démarquer, ça va être sur l'approche commerciale, si je peux dire ça ainsi, et puis sur la qualification de nos auditeurs, les restitutions, les supports que l'on peut restituer à nos clients, etc. Voilà.
J'ai une question par rapport à la démarche. Donc, vous nous avez dit que par rapport, par exemple, à l'ancien format Datadoc, qui était sous forme déclarative, là, on est dans plusieurs phases audites un certificat qui dure pendant 3 ans. La question qui me vient, c'est combien ça coûte tout ça? Il faut maintenir un budget à long terme pour pouvoir rester certifié. Est-ce que c'est rentabilisé à travers les financements auxquels on accède finalement?
Et puis, peut-être compléter la question par le fait de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça coûte cher. Et donc, c'est une façon de sortir les petits organismes de formation qui sont sans doute légitimes. Est-ce que c'est vrai? Et donc, combien ça coûte finalement?
Alors, les tarifs sont fixés, enfin, les tarifs sont en fonction en général de la durée de l'audit, puisque après, chaque certificateur a son propre tarif. Hein, donc, il faut savoir que c'est un marché privé. Donc, vous pouvez avoir des tarifs qui peuvent aller du simple au double. Moi, je ne connais pas l'ensemble des tarifs pratiqués, mais c'est vrai que j'ai des prospects qui me disent des fois, ça va du simple au double. Voilà. Il faut savoir que du coup, nous, on est Au niveau des durées d'audit, on doit respecter le décret qui concerne les modalités d'audit. Et ces durées-là sont en fonction en fait, du chiffre d'affaires de l'organisme et du type d'action de formation dispensée. Donc pour un petit organisme avec un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 euros, on est sur une durée d'audit initiale de 1 jour et l'audit de surveillance pardon, d'une demi-journée. Donc ça, c'est pour en fait, avoir la certification pour 3 années.
D'accord.
Donc du coup, pour ma part, je fonctionne avec un forfait jour que je multiplie par la durée d'audit. Hein. Il n'y a pas de frais annexes ou autres. Mais ce qu'il faut compter du coup pour un petit organisme, c'est, on va dire en arrondissant, 1 500 euros pour 3 années de certification. En fait, 1 000 euros à l'audit initial et 500 euros à l'audit de surveillance. Ce qui fait un budget moyen finalement de 500 euros par an pour un petit organisme. Donc après, la question de rentabiliser la certification... effectivement, il faut que les organismes qui font un tout petit chiffre d'affaires se la posent, puisqu'il y a quand même donc l'investissement financier, mais il y a un investissement aussi de temps. Le temps de préparation, le temps aussi de gestion, puisque du coup, derrière, ils doivent rentrer dans une démarche de certification, ils doivent faire un suivi, de la traçabilité, etc. Ce sont des éléments voilà, qui prennent du temps. Donc effectivement, sur des organismes qui font 1 000 euros par an de chiffre d'affaires sur la partie formation, bon, mais il va peut-être falloir se poser la question, savoir s'ils ne vont pas s'orienter vers du portage ou autre, ou alors ils utilisent la certification comme un tremplin et un atout pour justement se développer sur ces activités-là. Parce que là, en fait, on est sur un schéma où les organismes doivent être certifiés avant le 31 décembre donc 2020. Tout le monde attend le dernier moment, et je pense que ceux qui prennent de l'avance aujourd'hui auront un avantage d'ici la fin de l'année à avoir la certification, alors que ceux qui auront attendu... Ben, ne pourront pas l'être au 1er janvier 2021, quoi. Voilà.
Okay. Très bien.
Est-ce que finalement, ça ne va pas avoir un impact sur le marché de la formation au final ? Est-ce qu'il n'y a pas une restructuration ? On va peut-être, comme disait Stéphane, voir plus d'autres, certains acteurs privilégiés ou d'autres acteurs apparaître. Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'il y a... Il y a une coupure peut-être ?
Donc, quelles sont les conséquences pour vous ? Quelles sont les conséquences que vous voyez sur le marché de la formation ?
Moi, je ne vois pas vraiment de conséquences. Je vois surtout une amélioration de la qualité des prestations. Donc souvent, on prend la certification comme, comme quelque chose de contraignant. Mais enfin, moi, pour travailler du coup sous une norme, se structurer finalement nous fait quand même gagner du temps. Donc pour moi, on est censé gagner en qualité de prestation et donc du coup en qualité de stagiaire formé.
Alors la question qui se pose, c'est qu'effectivement, est-ce que vous êtes sur l'ensemble du territoire ? Parce que comme vous l'avez dit, en termes de prix, c'est vrai que sans que ce soit forcément le déterminant, mais c'est important aussi, 1 500 euros, c'est accessible. Donc c'est un choix d'investissement pour des petites structures, mais c'est accessible. Il y en a qui sont beaucoup plus chers. Et donc, la question que je me posais, est-ce que vous êtes régional ou vous êtes sur l'ensemble du territoire, DOM-TOM compris ?
Non, je suis sur l'ensemble du territoire et les DOM-TOM. En fait, moi, j'ai pris la décision de recruter des auditeurs vraiment basés partout en France pour justement proposer des prestations locales. Voilà, et du coup, limiter les frais.
Très bien. Et donc, si un organisme de formation vient, vous appelle, donc une personne vient faire une audite, est-ce qu'il part du Datadoc ? Comme élément, puisqu'on a vu qu'il y avait des éléments similaires en
oui,
une journée.
Alors le Datadoc, c'est un premier pas vers la qualité et on peut utiliser les éléments qui avaient été fournis au Datadoc pour répondre à certains indicateurs du référentiel. Après, il ne faut pas se dire que grâce à Datadoc, on a Calliope d'office, puisqu'il y a des indicateurs qui se sont ajoutés. Et puis certains vont un petit peu plus loin que le Datadoc sur la partie finalement, preuve, éléments de preuve à fournir et preuve qualité.
D'accord.
Donc, voilà.
Alors, effectivement, qu'est-ce qui a principalement changé si on voulait faire une petite comparaison
Alors, bon, là, du coup, ça... il y a quand même pas mal d'éléments. Pour avoir assisté à une réunion du CARIFOREF, ils avaient estimé qu'il y avait à peu près 60% des indicateurs qui étaient repris sur Calliope, bon, avec peut-être effectivement des éléments qui allaient un petit peu plus loin qu'avant. Donc on va dire que voilà, il y a quand même bon une autre partie à rajouter. Enfin, déjà visuellement, quand on se lance dans Calliope, on voit qu'avant Datadog, il y avait 6 critères, que Calliope, maintenant, il y en a 7. Donc il y a un critère supplémentaire qui finalement, bon, c'est pas le critère 7, c'est le critère 6, qui demande en fait aux organismes de réaliser une veille pédagogique, technique et réglementaire. Ça n'était pas avant dans le Datadog. Et après, la différence aussi avec Calliope, c'est que il y a des indicateurs qui sont applicables ou pas en fonction du type d'action de formation dispensée. Voilà, on a 7 critères, 32 indicateurs, mais pour un organisme de formation, par exemple, il n'y en aura que 28 d'applicables. Et sur les 28, il y en a certains qui concernent la formation certifiante et qui, du coup, peuvent ne pas être appliqués si on ne fait pas de formation certifiante. Il y en a un pour la sous-traitance, il y en a un pour l'action de formation en situation de travail. Voilà, donc il y a certains indicateurs qui sont applicables ou pas en fonction du type d'activité. Voilà.
Et ça veut dire qu'en une journée, vous épluchez tous les processus pour voir et pour évaluer, pour faire le diagnostic. Si d'aventure il y avait des éléments qui n'étaient pas validés, on fait revenir la personne, l'auditeur.
Alors en fait, le guide de lecture définit la non-conformité mineure ou la non-conformité majeure. Une non-conformité mineure, si l'organisme il en a moins de 5, il peut passer en décision de certification à la suite de la fourniture de son plan d'action. Par contre, s'il en a plus de 5 ou qu'il a une majeure, donc non prise en compte d'un indicateur, c'est une non-conformité majeure. Là, effectivement, il faudra qu'il fournisse des éléments de preuve pour lever la non-conformité. Et ces éléments de preuve, en fonction de la gravité de la non-conformité, du type de non-conformité, soit ça peut être réalisé par un simple échange documentaire, soit il faut effectivement, c'est le pire des cas, on va dire, réaliser un audit complémentaire. Voilà.
Alors,
L'audit complémentaire permettra à l'auditeur de rebalayer la documentation pour pouvoir s'assurer que les preuves sont bien présentes pour lever la non-conformité.
Donc, ça veut dire effectivement que dans les organismes que vous avez audités, quels sont les éléments qui sont très importants, qui sont déterminants, par exemple, pour avoir un ordre d'idée? Feuille de
Les éléments
présence?
déterminants par rapport au référentiel?
Absolument.
En fait, chaque indicateur est déterminant puisque finalement, si on répond pas ou partiellement à un indicateur, la certification peut être remise en cause. Après, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des indicateurs pour lesquels la non-conformité mineure n'est pas possible. Donc déjà, ces indicateurs-là, si c'est non conforme, même partiellement, c'est une non-conformité majeure. Donc bloquant pour la certification. Donc c'est important de se concentrer sur ces indicateurs-là, mais il faut pas quand même oublier les autres en fait, puisque finalement tous peuvent entraîner une non-conformité majeure. Donc c'est vraiment la globalité qu'il faut prendre en compte.
Est-ce qu'on peut considérer que l'auditeur qui vient est non pas un gendarme, mais un conseiller? Ou est-ce que c'est un gendarme véritablement en disant vous y êtes pas?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'un organisme certificateur n'a pas le droit de faire de prestations de conseil. Donc, il n'est pas là pour conseiller, mais il n'est pas là non plus pour faire le gendarme, il n'est pas là pour rechercher la non-conformité. Il est là pour chercher la preuve de conformité. Donc, la grande qualité d'un auditeur, normalement, c'est sa bienveillance. Voilà. Donc, les consignes qu'il a lorsqu'il réalise les audits, c'est vraiment d'aller chercher la preuve de conformité en toute bienveillance. Et bien évidemment, il va poser ses questions pour orienter finalement l'audité à fournir l'élément de preuve qu'il attend. Voilà.
Vous avez déjà commencé à faire des certifications?
Oui. On a déjà commencé à faire des audits depuis. Donc pour ma part, je suis sur la liste depuis fin septembre. Et les premiers audits ont eu lieu en octobre, on en a eu en décembre. Et puis là, en janvier, février, on est en cours. Voilà. Après, par rapport au volume à certifier, c'est encore un peu timide, même si on en a. Voilà. J'ai entendu dire que il y avait au mois de janvier, là, quand il y a eu les universités d'hiver de la formation professionnelle, il y avait 144 certifiés pour tous les organismes certificateurs confondus. C'est quand même très peu compte tenu du volume qu'il y a à certifier d'ici la fin de l'année.
Effectivement. Donc ça veut dire qu'à la fin, on va se retrouver bloqué parce que tout le monde ne pourra pas le faire sur les 2, 3 derniers mois.
Ah, ça c'est. Enfin, on a beau finalement, on essaye d'anticiper la vague, donc on recrute des auditeurs, on forme des auditeurs, mais effectivement, à un moment donné, en plus, on a des ressources communes entre organismes certificateurs. Moi, j'ai des auditeurs, ils travaillent pour d'autres organismes, même plusieurs autres organismes. Donc, à un moment donné, quand ils pourront plus donner de date à un des organismes, ils ne pourront plus en donner non plus aux autres, hein. Et effectivement, on va se retrouver avec un manque de ressources, ou alors avec des ressources finalement qui n'auront pas toutes les compétences pour réaliser des audits. Donc, l'idéal, c'est quand même de s'y prendre en avance, de démarrer les démarches avant la fin du premier semestre. Pour essayer de faire ça au plus tôt, parce qu'on va avoir un goulot d'étranglement sur la fin de l'année et on risque d'avoir des répercussions sur le début de l'année 2021. Après, pour ma part, j'ai déjà vécu une certification sous obligation réglementaire, un petit peu dans le même genre que Calliope, et il s'était produit la même chose, c'est-à-dire que tout le monde avait attendu finalement les 3 derniers mois de l'année pour se lancer dans la certification. Donc effectivement, il y en a qui au 1er janvier n'étaient pas certifiés et ben, après ils avaient réservé les dates sur le début d'année suivante. Mais en comparaison, le volume, il était quand même bien inférieur à celui qu'on est censé avoir aujourd'hui, hein. Donc il faut vraiment anticiper au maximum. Moi aujourd'hui, j'ai déjà des clients qui me réservent des dates pour novembre, hein. Voilà. Alors, réserver une date pour novembre, c'est pas un conseil que je donne parce que s'il y a des non-conformités bloquantes, les organismes ont 3 mois pour la lever. Donc, s'ils veulent vraiment la certification au 1er janvier 2021, il faut en fait au plus tard programmer son audit sur le mois de septembre. Au moins, ils ont les 3 mois pour lever la non-conformité et ils sont sûrs d'avoir la certification au 1er janvier. Après, s'ils le programment après, c'est en fait un petit peu le risque qu'ils prennent de ne pas répondre aux non-conformités dans les temps.
Juillet-août, c'est ouvert, parce qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont une activité moindre pendant l'été, et donc c'est peut-être aussi l'occasion pour eux de faire l'audit.
Eh bien, bizarrement, alors oui, enfin pour ma part, je suis ouverte en juillet et en août, mais quand j'ai les organismes de formation qui me contactent pour programmer des dates aujourd'hui, ils ne veulent pas programmer juillet et août parce que eux sont fermés.
Ah oui, mais il y a des
Voilà.
priorités, les vacances passent avant quand même, très bien.
Donc aujourd'hui, les mois les plus prisés, concrètement, c'est juin et septembre. Voilà. Ils veulent tous faire juin ou septembre.
D'accord.
Alors, si on a cette certification, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on pourra aller sur la plateforme CPF? Parce que beaucoup de personnes se posent la
Excusez-moi.
question sur est-ce que ça sera utile pour s'inscrire sur la plateforme CPF?
Alors, la plateforme CPF, pour s'y inscrire, il faut monter un dossier au RNCP ou au RSCH et le présenter en fait à France Compétences. Mais effectivement, si on veut être sur la plateforme CPF et qu'on veut les financements, en plus d'avoir finalement sa formation qui est référencée au RNCP ou au RSCH, il faut avoir Calliope puisque le CPF est un fonds de financement public ou mutualisé.
Donc,
Donc
ça va être
le
indispensable.
conseil sur vous avez évalué qu'il y avait combien d'organismes de formation? Parce que suivant les sources, ça passe de 50 000 à 80 000, ce qui est énorme par rapport
Non, en
au.
fait, en France, enfin, il y a une liste des organismes de formation référencés en France, donc les organismes qui ont un numéro de déclaration d'activité. Il y a à peu près entre 90 et 100 000 organismes qui ont un numéro de déclaration d'activité. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 50 000 qui sont référencés Datadoc et il y en avait qui étaient en démarche de Datadoc. Donc je crois qu'on monte aux alentours des 60 000 organismes de formation. Pour la certification Calliope, bien évidemment, il y en a certains qui ne vont pas y aller parce qu'ils font très peu de chiffres sur la partie formation, parce qu'ils n'auront pas envie de s'investir dans cette certification. Et on avait estimé, enfin, le ministère avait estimé qu'on allait avoir autour des 35 000 organismes qui allaient demander la certification. Voilà.
Et pour des gens qui sont des indépendants, donc qui sont hors locaux, est-ce que ils peuvent prétendre à la certification?
Oui, alors en fait, le décret prévoit pour les organismes qui n'ont pas de locaux, puisqu'on a beaucoup finalement d'indépendants. Enfin, pour ma part, j'ai énormément de demandes d'indépendants. Je pense que ma taille fait que aussi ils s'orientent vers des structures un peu plus à taille humaine. Mais du coup, pour les indépendants, le décret prévoit que s'il n'y a pas de locaux dédiés à la formation, on puisse convenir d'un lieu pour la réalisation de l'audit. Donc ça peut être un bureau de coworking ou alors ça peut très bien être finalement le domicile de la personne puisqu'elle a ses bureaux souvent finalement à son domicile. Et nous, ça nous est arrivé très fréquemment là sur les audits que l'on a réalisés d'intervenir au domicile des personnes directement. Voilà.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que les organismes financeurs, les institutions, vont suivre un peu cette règle-là et être plus souples par rapport à ces acteurs formateurs qui sont indépendants? Ou est-ce qu'il y aura toujours des organismes de formation qui vont demander qu'il y ait certaines ressources classiques comme les locaux, etc., qui sont disponibles pour certains projets?
Après, normalement, c'est un référentiel qui fait partie de la loi, donc ils doivent respecter la loi, hein. Nous, dans le référentiel, justement, pour tout ce qui est accessibilité, si on en vient sur le sujet des accessibilités aux personnes en situation de handicap, on a quand même deux indicateurs qui y font référence. Normalement, même si la personne n'a pas de locaux, si elle est en mesure de prouver que demain, si elle a une demande d'une personne en situation de handicap, elle sait adapter ses formations ou alors elle sait aussi louer une salle adaptée et accessible à une personne à mobilité réduite, je ne vois pas pourquoi les OPCO ne financeraient pas.
D'accord. Et est-ce que par exemple, les formations en ligne entrent dans ces cadres-là ou c'est...
Oui, le e-learning rentre dans ce cadre-là. Pour ma part, j'ai déjà eu du coup des audits pour des organismes de formation qui font du e-learning. Et finalement, la solution digitale est hyper intéressante pour eux, puisque pour la traçabilité des éléments de preuve, c'est hyper facile pour eux, quoi. Donc, ouais.
Est-ce qu'on ne voit pas l'émergence enfin, de nouveaux acteurs qui vont prendre de la puissance un peu avec cette nouvelle règle finalement? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que je pense que le digital et le e-learning est en train quand même de bien se développer et ça plaît beaucoup. Donc, il est possible effectivement qu'on arrive de plus en plus sur des solutions digitales. Après, le contact direct est quand même important à garder, je trouve. Ça dépend le type de formation en fait. Mais c'est vrai que sur certains types de formations, le e-learning se développe plutôt bien.
Alors, certains indépendants, donc puis je comprends un peu toutes les rumeurs pour pouvoir les évaluer. Certains indépendants disent finalement, tout ça c'est très compliqué. Finalement, il vaut mieux sortir complètement la formation des réglementations. Et si je travaille avec une entreprise privée et que j'ai que une ou deux entreprises qui ne sont pas publiques, j'ai tout intérêt à pas rentrer dans ce système de certification. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre?
Après, ça, c'est une stratégie, comme je disais tout à l'heure. Finalement, soit ils voient Calliope comme quelque chose de positif et un tremplin pour justement développer leurs activités, soit ils sont complètement fermés et à ce moment-là, on peut pas, enfin, à un moment donné, on peut pas non plus les obliger à aller vers la certification. Hein, c'est un choix, c'est une stratégie. Donc, je vois, j'ai pu échanger avec des personnes qui étaient complètement fermées et qui m'ont dit, moi, maintenant, je travaillerai plus qu'avec des personnes sur des fonds privés. Bon, à un moment donné, c'est leur choix et peut-être qu'ils le regretteront, mais de toute façon, même s'ils le regrettent, ils seront jamais, enfin, ils pourront toujours finir par retourner sur Calliope. Je veux dire, l'année prochaine, dans 2 ans, ils peuvent se décider et passer la certification. Donc, rien n'est rédhibitoire, en fait. C'est pas parce qu'ils s'y lancent pas avant le 1er janvier qu'ils ne pourront pas s'y lancer dans 1 an ou dans 2 ans, voire plus, hein.
Alors
Voilà.
effectivement, parce ce qu'on a l'air de sentir dans les entreprises, c'est que les entreprises disent, comme c'est un indicateur de qualité, eh bien, je vais le mettre en prérequis en disant qu'il n'y a pas d'obligation, mais dans les appels d'offres et des gens qui rencontrent, ils disent, pour être sûr que ce soit un process de qualité, je le demande. Voilà, donc c'est
Oui.
même, ça veut dire que c'est même s'ils travaillent dans le privé et qu'il n'y a pas d'obligation, un motif de précaution, souvent, ça devrait être un outil de communication.
Effectivement, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, comme je disais, j'avais déjà vécu une obligation de certification réglementaire et dans les appels d'offres, il était demandé cette certification-là alors qu'elle n'était pas obligatoire pour faire ce genre de travaux. Donc, c'est possible que ça finisse par devenir le cas aussi pour Calliope puisque ça sera finalement pour les clients un gage de qualité et de la prestation. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, soit on voit Calliope comme une stratégie, soit finalement, on se dit qu'on va rester sur des fonds privés, mais avec le risque, effectivement, que quelqu'un qui ait pris le pas en se disant, moi, je le vois comme un atout et un avantage, je me lance de suite. Voilà, ça, c'est le risque. Voilà. Après, il y en a qui disent qu'ils font de la prestation de qualité et que c'est pas parce qu'ils seront Calliope qu'ils seront davantage choisis. Et ça, je veux bien le croire, hein. Il y a des organismes qui ont une renommée telle qu'ils n'ont pas besoin de ça et qu'ils auront quand même leurs clients sur des fonds privés. Mais voilà, ça, il faut évaluer sa stratégie, en fait, hein.
Et pour les entreprises qui ont des organismes de formation interne, est-ce que ça vaut la peine de passer par Calliope?
S'ils veulent les financements, les fonds de financement public ou mutualisés, oui. Oui. Ça dépend s'ils travaillaient beaucoup avec les fonds de financement public ou mutualisés. Mais à mon avis, ils vont y aller aussi.
Est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que Calliope, ça, c'est plutôt un levier pour les organismes de formation ou les formateurs qui veulent se faire connaître sur le marché et qui vont pénétrer ce marché, enfin qui essayent de le faire en tout cas?
J'ai raté un petit bout de la question,
oui.
Je suis désolée.
Il n'y a pas de souci, je répète. Je vous disais, finalement, est-ce que la marque Calliope n'est pas finalement un levier pour les nouveaux organismes de formation ou les organismes de formation qui veulent se faire connaître sur le marché par rapport à ceux qui ont déjà leur clientèle, qui ont déjà
oui.
une image
C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les organismes qui n'ont pas aujourd'hui beaucoup de chiffre d'affaires, ils peuvent voir ça justement comme un tremplin. Par rapport à peut-être des concurrents à eux qui freineraient à se lancer dedans, comme un avantage commercial pour quelqu'un qui est certifié, qui se lance dans la certification et qui est certifié au mois de septembre, il est sûr qu'au 1er janvier, il a sa certification et peut-être que son concurrent, il se sera trop posé de questions et qu'au 1er janvier, son concurrent, il perdra son marché parce que il n'a pas Calliope à ce moment-là. Donc effectivement, pour moi, les petits organismes, ils ont vraiment leur carte à jouer. Après, je comprends que c'est quand même un investissement en temps et en argent puisque la certification coûte, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais je suis pas d'accord sur le fait de dire qu'elle est là pour évincer les petits organismes. En tout cas, c'est pas du tout l'état d'esprit de la DGFP sur ce sujet-là.
Ça peut. Est-ce que vous avez une petite idée, par exemple, finalement, ça coûte de l'argent, oui, certes, vous nous avez un peu donné une petite fourchette moyenne, mais combien ça peut rapporter finalement au-delà du retour sur investissement en termes de part de marché? En termes de financement, est-ce que vous avez des chiffres où ça dépend
Non, au niveau des financements, ça va vraiment dépendre du type de formation qu'il dispense et des budgets alloués pour les formations par les OPCO, hein. Donc là, c'est difficile de dire qu'est-ce que ça peut leur rapporter. Là, c'est une étude de marché à faire pour chaque organisme de formation en fonction de sa spécificité.
Et si l'indicateur de toute façon s'impose, au bout d'un moment, ça sera un passage obligé, y compris dans le privé. Donc, c'est des choses intéressantes pour ceux qui veulent poursuivre le travail dessus. Moi, j'avais une question sur l'international. C'est-à-dire, il y a certains organismes de formation qui sont frontaliers, il y en a d'autres qui travaillent, qui ne sont pas très très nombreux, France et international. Est-ce que finalement, Calliope a une assise européenne ou est-ce que chaque fois, il faut se développer et comment c'est perçu? Donc, comment l'international, est-ce que Calliope est franco-français ou est-ce que ça peut servir de base ou par exemple, quand on est certifié en France, on est certifié en Europe?
Non, là, c'est une loi française, donc on est certifié qu'en France. Par contre, les organismes qui ont des succursales en France, en fait, j'ai eu le cas récemment, et qui ont un numéro de déclaration d'activité et qui veulent pouvoir bénéficier des fonds de financement public ou mutualisé, elles devront se faire certifier. Donc après, c'est à étudier en fonction des cas par cas, puisque s'ils n'ont pas de locaux dédiés, on peut définir que l'audit soit réalisé sur leur site français qui est porteur du numéro de déclaration d'activité. Après, s'il y a des locaux et qu'ils sont à l'étranger, c'est autre chose, parce que du coup, on est sur des financements publics ou mutualisés finalement français. Donc voilà.
Et s'il existe, parce qu'il existe des certifications européennes, elles n'ont pas d'équivalence en disant si on est certifié au niveau européen, dans ces cas-là, ça ne permet pas d'être certifié Calliope.
Non, à ce jour, non, en tout cas.
Donc c'est tout récent, donc à voir comment ça peut évoluer.
Oui, c'est tout récent et puis c'est une loi française, hein, donc au niveau européen, il faudrait que ça soit un cran au-dessus.
Très bien. Donc, une dernière question, Manal.
J'ai pas de questions tout de suite. Je pense que, enfin, moi, les questions principales c'était par rapport au budget moyen. la démarche, comment y arriver, des structurations ou restructurations des marchés. Et je pense que, si j'ai bien compris, vous me corrigerez, on attend de voir comment ce marché de la formation va absorber cette nouvelle certification et va y répondre. Je pense que aussi, comment les personnes qui demandent, qui sont clientes des organismes de formation vont peut-être réagir. Je pense que c'est ça que vous nous avez dit tout à l'heure.
Oui. Alors, c'est vrai que la date approche et arrive vite, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'organismes de formation qui ne se sont pas encore intéressés au sujet. J'ai vu un sondage où il y avait à peu près 60% des organismes qui disaient qu'ils allaient s'y intéresser vers le mois de juin. Donc ça fait déjà tard le mois de juin pour s'y intéresser. Parce que tous ceux qui auront pris de l'avance et qui aujourd'hui réservent déjà des dates sur septembre, octobre, novembre, prennent la place finalement. Et ils ont bien raison, hein, dans un sens, d'anticiper et de réserver pour avoir le choix. Mais voilà. Et du coup, on peut se dire que... les clients des organismes de formation sont peut-être pas encore non plus totalement au fait de cette réglementation, mais quand ça va commencer à se savoir, effectivement, ça va peut-être changer la donne, et comme vous le disiez tout à l'heure, Calliope pourra être un avantage concurrentiel.
D'accord.
Même pour des fonds privés.
Et du coup, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui veulent commencer à anticiper, même s'ils n'ont pas peut-être pris de rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut voir? Il y a un site internet à voir pour commencer à préparer un peu les démarches, voir si on est dans les clous, s'il faut travailler sur certaines choses. Donc, avant de contacter, parce qu'il faut, si j'ai bien compris, il faut travailler sa certification avant de contacter.
Oui. Donc, oui, avant de nous contacter, après, on peut nous contacter pour déjà avoir un devis, avoir un ordre d'idée du tarif. Là, ce que je vous ai donné comme tarif tout à l'heure, c'était pour un petit organisme, des organismes qui font un peu plus de chiffre d'affaires. Les durées d'audit sont plus longues et du coup, le tarif est plus cher par défaut. Donc, il y en a qui n'ont pas encore commencé les démarches, mais qui réservent déjà leur date pour anticiper et puis pour se fixer aussi une date butoir. Ils se fixent un objectif en quelque sorte. Après, ceux qui attendent finalement d'être conformes au référentiel et d'avoir fini de travailler pour réserver leur date, c'est quand même aussi risqué que de ne pas avoir autant le choix. Maintenant, on est encore du coup, enfin je veux dire, on est encore dans les temps, on a encore de la disponibilité, même sur le second semestre et même encore sur le premier semestre. Hein. C'est juste qu'il y en a qu'on voit qu'il y en a qui commencent déjà à réserver. Voilà. Après, effectivement, il y a un temps de préparation. Souvent, on me demande combien de temps je vais mettre pour préparer. Est-ce que vous pouvez me dire? Alors là, c'est vrai que moi, pour y répondre, c'est quand même assez compliqué parce que je ne sais pas combien de temps ils vont y accorder par semaine, où est-ce qu'ils en sont de la démarche, si Datadoc avait été fait de façon... comment dire? Parce que Datadoc, c'était quand même du déclaratif. Sinon, pas eu le contrôle. On ne sait pas si ils avaient bien appliqué ce qu'ils avaient dit sur le Datadoc ou pas. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là à avoir pour savoir combien de temps ça va leur prendre. Donc après, certains se feront accompagner par des cabinets de conseil. Du coup, là, les cabinets de conseil, en général, ils leur disent « Bon, moi, je vous accompagne. D'ici 2 mois ou 3 mois, vous serez prêts. » Et après, ceux qui finalement se lancent seuls, moi, ce que je leur dis, c'est, avant de réserver une date aussi, bien évidemment, c'est de déjà prendre connaissance du guide de lecture, faire un petit état des lieux de ce qui leur reste à mettre en place, établir en fait ce qu'on appelle un plan d'action, et à ce moment-là, quantifier un petit peu le travail et estimer une date limite à laquelle ils estiment qu'ils seront en conformité. Mais effectivement, il y a quand même du travail avant de se présenter à la certification. Et souvent, en fait, les organismes pensent que l'organisme certificateur va les aider et va les accompagner. Mais nous, on n'a vraiment pas le droit de faire de conseils et d'accompagnement. Donc, non, on est là pour faire l'audit de certification, porter leur certification, mais pas pour les accompagner et les conseiller sur le... Sinon, on serait jugé parti, en fait. C'est de la déontologie. Voilà.
Et donc, le guide de lecture, moi, je ne l'ai pas lu, mais vous l'avez peut-être lu. Il est facile, hein? Est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner ou n'importe qui peut le prendre? Facile à mettre en application, facile à comprendre?
Est-ce que le guide de lecture est accessible pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans ces procédures-là? Quelqu'un tout seul, un formateur, est-ce qu'il peut s'approprier le process?
Pour moi, le guide de lecture est quand même une mine d'informations. Enfin, c'est la première fois que je vois sur un schéma de certification un tel document. C'est-à-dire que vraiment, le ministère, quand ils ont fait ce guide, ils ont vraiment voulu aiguiller au maximum l'organisme qui allait demander sa certification. Parce que donc, le guide reprend l'ensemble des indicateurs et des critères. Mais en plus de ça, il spécifie le niveau attendu, donc le niveau attendu par l'auditeur lors de l'audit. Et il spécifie aussi des exemples d'éléments de preuve à fournir. Donc après, chaque organisme a sa propre organisation. Il peut avoir un autre élément de preuve qui permet de répondre à l'indicateur et au niveau attendu. Donc il n'y a aucune obligation d'avoir finalement les éléments de preuve fournis par le guide de lecture. Mais je trouve que ça permet quand même d'aiguiller finalement les organismes sur les attendus de l'audit. Sur le fait aussi que pour chaque indicateur, on aboutit sur un élément de preuve. Et qu'il ne suffit pas finalement de dire, ah ben oui, mais je l'ai averti, je lui ai dit à l'oral. Non, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vérifier qu'il y a vraiment des preuves factuelles. Donc quand je dis preuves factuelles, ça peut être des documents, des traces de mail, un site internet, voilà. Mais il faut qu'il y ait une trace écrite finalement de ce qui a été, de ce qui permet de répondre à l'indicateur.
Alors, par exemple, quand on parle de la veille, qu'il soit réglementaire sur les domaines de compétences, comment est-ce qu'on donne la preuve qu'on fait de la veille? Si, par exemple, je fais de la veille réglementaire en disant, si je vais sur des sites, enfin, chacun a sa technique pour faire de la veille, qu'il soit individuel ou collectif, comment je fais preuve que j'ai fait de ma veille?
Donc déjà, il peut, dans le guide de lecture, c'est spécifié, ils peuvent prouver qu'ils ont des abonnements pour la veille, ou alors ils peuvent prouver aussi qu'ils ont exploité cette veille. Donc en fait, c'est à double titre, c'est-à-dire que si on part du principe qu'il fait sa veille en écoutant la radio,
Oui,
voilà, par
très bien.
exemple, et bien, s'il nous prouve qu'il a apporté des améliorations à ses procédures, à son fonctionnement, parce que bon, la veille, elle peut être donc réglementaire. Déjà, rien que le fait de rentrer dans la démarche Calliope, pour moi, ça prouve qu'il y a eu une veille réglementaire et qu'il en a exploité finalement les enseignements. Hein, voilà, déjà. Et après, si c'est des veilles finalement techniques et aussi technologique, il nous montre que il a pu faire évoluer ses supports de formation, qu'il est en train de digitaliser. On parlait du e-learning tout à l'heure, mais voilà, ce genre de preuve-là.
Très bien.
Ou
Ou
quand c'est
alors.
technique, il y a une nouvelle exigence technique qui est entrée en ligne de compte. Bon, mais mon support pédagogique a évolué, j'ai une nouvelle version. Voilà, c'est
C'est
ce
pas
genre
forcément
d'élément.
le contenu, ça peut être aussi dans les processus.
Oui, puisqu'il y a trois types de veille. Hein. Le guide de lecture, voilà, il y a la réglementaire, il y a la pédagogique et il y a la technique.
Il faut respecter les trois ou une
Ah oui, il
seule.
faut répondre aux trois indicateurs. Hein. C'est trois indicateurs indépendants, mais il faut répondre aux trois. Donc, il faut qu'ils puissent prouver qu'ils font une veille sur les trois types. Et l'indicateur demande que donc qu'il réalise une veille et qu'il en exploite les résultats. Donc, il faut montrer qu'il y a finalement une progression, une amélioration lorsque il y a eu quelque chose qui était applicable finalement à eux.
Autrement dit, quelqu'un qui mettrait des étoiles sur la plateforme iTunes après avoir écouté ce podcast-là, ça laisse une trace et ça montre bien qu'il a fait de la veille.
Voilà, il
Ça, c'est
fait
bien dit.
un petit screenshot de ses quatre étoiles
Exactement. En dessous de 4,
et il fournit ça
c'est
à
pas
l'auditeur.
crédible. Très bien.
Sachant
Impeccable.
que format radio donne plein d'autres astuces qui peuvent être utiles, on va dire, pour tous les formateurs et les organismes de formation.
Alors, absolument, et je les invite tous à mettre des commentaires ou à poser des questions, et si c'est le cas, dans ces cas, on vous retransmettra les questions. J'avais une dernière question, c'est de se dire que est-ce qu'il y a c'est prévu de voir une révision des critères de l'audit, en disant on présente des critères qui ont une certaine cohérence, par exemple la montée en puissance des apprenants qui seront petit à petit peut-être plus pris en charge. Est-ce qu'il y a prévu, par exemple, au bout d'un certain laps de temps, de dire on refera une révision au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans?
Alors, je suis désolée, j'ai entendu le début et la fin. Donc, du coup, je crois qu'il me manquait
Alors,
le contenu, une révision des critères par rapport à quoi? Parce que, du coup, le guide, il y a des révisions fréquentes. On est à la 4.2 aujourd'hui. Mais peut-être que votre question, c'était pas sur ça.
c'était le fait de dire que France Compétences a élaboré des critères. Dans ces cas-là, ces critères-là, est-ce qu'il est prévu un moment de les revisiter?
Ah oui, en fait, effectivement, donc c'est ce que j'avais compris. Le guide de lecture, aujourd'hui, il évolue en fonction aussi des retours de terrain que l'on fait via nos audits. On se réunit à peu près tous les mois au ministère pour échanger sur nos retours d'expérience, nos commentaires sur ce guide de lecture. Et en fait, aujourd'hui, on est en version 4.2, c'est ce que je disais, du guide de lecture, donc il peut encore évoluer. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans l'amélioration de l'interprétation et de la compréhension du guide, plus que dans la refonte des indicateurs. Mais effectivement, le fait que ce guide soit finalement qu'il puisse évoluer peut entraîner un jour effectivement une modification de certains indicateurs. Déjà, on va commencer, je pense, avec ça, en essayant d'améliorer le support sur l'interprétation, comme je disais, et le contenu et voilà, le fait qu'il soit compréhensible. Mais bon, c'est pas exclu que finalement ça évolue encore, hein. Ça, bon, en tout cas, c'est pas encore dans les tuyaux, hein.
Bon, très bien. Donc
Voilà.
ça, c'est impeccable. Merci Laetitia Clanet. Si on veut vous contacter, comment est-ce qu'on fait?
Alors, soit en fait par téléphone, hein, donc j'ai beaucoup d'appels téléphoniques en ce moment, donc c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que ça va saturer, on aura du mal à répondre à toutes les questions, soit en fait directement pardon, via le site internet de Qualicia Certification. Donc j'ai essayé de faire un site internet un petit peu pédagogique qui explique justement la démarche de certification, ce que je vous disais tout à l'heure sur les cycles de 3 ans, comment se déroule un audit. Comment ça se passe en cas de non-conformité, etc. Et en fait, après, j'ai directement en ligne un formulaire de demande de devis, parce que vous verrez, donc la plupart des organismes, finalement, ne connaissent pas la démarche de certification, mais quand on rentre dans une démarche, on doit systématiquement exprimer son besoin auprès du certificateur, parce que, nous, en tant que certificateur, on doit récupérer certains éléments pour élaborer le devis, et puis pour s'assurer qu'ils ont les prérequis pour rentrer dans la démarche de certification. Donc là, dans les prérequis, on a finalement le fait de détenir un numéro de déclaration d'activité. Mais en plus de ça, en fait, le décret qui concerne les modalités d'audit demande en fait au certificateur de récupérer certains éléments avant l'audit. Donc le bilan pédagogique et financier. S'ils sont plus de 3 salariés en CDI, on doit récupérer un organigramme. S'ils ont une certification CNEFOP, une copie du certificat pour bien s'assurer qu'il est encore valide et que l'on peut faire un audit aménagé. Voilà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et qui sont finalement retracés via ces formulaires de demande de devis. Donc après, à réception, personnellement, j'essaie de traiter les devis sous 48 heures. Voilà, je réponds sous 48 heures.
Impeccable. Et pour le guide de lecture, pour avoir tous les critères et l'explication, est-ce que finalement, on le retrouve sur votre site?
Pardon?
Sur le guide de lecture, est-ce qu'on le retrouve sur votre site?
Oui, alors du coup sur mon site j'ai mis des liens directs vers le site du ministère, comme ça on est sûr d'avoir la dernière version en vigueur. On retrouve les arrêtés et les décrets qui concernent cette certification, et puis un lien aussi vers le guide de lecture. Ce guide de lecture, en fait, il est publié par le ministère, il est aussi directement accessible sur leur site, hein. Mais en passant via le site de Qualicia, vous pouvez aussi cliquer sur le lien et y retomber dessus. Voilà. Du coup, dans la dernière version en vigueur. Puisqu'il faut faire attention avec les mises à jour de bien prendre en compte la dernière version en vigueur.
Impeccable. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense que c'était très intéressant, très instructif. Et puis maintenant, les auditeurs, n'hésitez pas à faire toutes vos remarques, tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des étoiles. On a dit que c'était très important pour vous, mais très important aussi pour nous. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.